Si je vous dis discrimination, vous pensez couleur de peau, genre, handicap, orientation sexuelle, mais parfois elle se cache dans des endroits insoupçonnés, moins visibles. Là, par exemple, vous entendez ma voix. Elle peut vous sembler neutre, vous n'entendez pas d'accent particulier, et effectivement, je dois dire que je colle à une certaine norme de tonalité, celle qu'on nous a appris à identifier dans les médias comme la voix, entre guillemets, « normale ». Et en plus de ça, on est habitué à avoir des représentations associées à la voix. Pendant que je parle, vous avez sûrement une image en tête d'à quoi je ressemble, et peut-être que vous imaginez une certaine couleur de peau. Alors est-ce que cette voix qu'on pense neutre ne serait pas sous-entendue blanche? Et est-ce que ce qu'on perçoit comme une absence d'accent ne cacherait pas des biais racistes? J'ai eu envie de me poser la question dans cet épisode.
Vous écoutez Oppression, le podcast de la section radio du QEJ consacré au racisme. Un accent pas si neutre. Un épisode signé Marie Starry.
C'est un mot qui a fait irruption dans le paysage médiatique en 2018.
On parle de la glottophobie.
La glottophobie.
On va parler ensemble de glottophobie.
La glottophobie, le racisme anti-accent.
La glottophobie.
Un néologisme théorisé en 2016 par Philippe Blanchet, professeur de sociolinguistique à l'université Rennes 2. Le mot a deux racines grecques, glotta, la langue, et phobos, la peur, le rejet. Le rejet d'une langue, donc, et parfois plus particulièrement d'un accent. La glottophobie est une forme de discrimination qui repose sur une idée. Il y aurait une bonne manière de parler, une norme, et tout ce qui s'en éloigne est alors jugé inférieur. Selon un sondage IFOP de 2020, un Français sur deux estime parler avec un accent. Plus d'un quart affirme être régulièrement l'objet de moqueries au quotidien. Et d'après les résultats de cette étude, pas moins de 11 millions auraient été victimes de discrimination lors d'un concours, d'un examen ou d'un entretien d'embauche à cause de leur accent. En France, on a beaucoup entendu parler de glottophobie en lien avec les accents régionaux. On se souvient par exemple de l'imitation controversée de Jean-Luc Mélenchon face à la journaliste Véronique Gorel et son accent toulousain.
Monsieur Mélenchon, quand vous disiez sur la 3 il y a quelques mois, quand vous pointiez les déboires judiciaires de Fillon et de Le Pen, vous étiez une décadence de la République.
Hein ? Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ?
Des accents régionaux souvent imités, voire moqués, car on n'a pas l'habitude de les entendre, et encore moins dans le milieu du journalisme.
Bonjour et bienvenue dans ce 13h.
À la une, les efforts de Michel Barnier ce soir pour trouver des compromis.
Bonjour à tous. À la une ce matin.
À la une ce matin, Bruno Retailleau, attendu dans le Pas-de-Calais par des maires qui sont à bout de nerfs.
Quand on fait de la politique en France, madame, c'est pour renverser le monde. Eh bien, ça n'entraîne que des déceptions.
Ah non, autant pour moi, lui, c'est une exception. Jean-Michel Apathy est souvent cité en contre-exemple, mais il est quasiment le seul. Et si d'autres que lui trouvent parfois leur place dans l'audiovisuel, c'est généralement à des postes de journaliste de sport, pour l'accent du Sud-Ouest, par exemple.
Ça veut dire que les enfants ont fait chanter la vessie.
Les journalistes auraient donc a priori une seule manière de parler, qu'on pourrait croire sans accent, mais au final quand même très parisienne. Philippe Boula de Mareuil est linguiste et directeur de recherche au CNRS. Je lui ai demandé si cet accent neutre n'en était finalement pas un.
Bonjour, oui. Alors, est-ce que ça n'existe pas vraiment ? Certains disent ça. D'un autre côté, quand on évalue un accent sur une échelle, un petit accent, un fort accent, c'est bien qu'on a un point de référence, un repère qui serait le zéro, qui serait accent neutre. De façon arbitraire, c'est associer un groupe social dominant qui vit dans la capitale. Ça, c'est pas forcément un hasard, c'est ce qu'on observe dans beaucoup de pays du monde, parce que la capitale est un pôle de rayonnement, d'attraction aussi, qui attire les élites, puis ensuite qui va diffuser. On peut ne pas être d'accord, mais de façon de nouveau arbitraire, on peut considérer que voilà, cet accent est associé aujourd'hui à la région parisienne et notamment à ses élites médiatiques.
Et là où ça devient intéressant, c'est quand on creuse au-delà des accents régionaux et qu'on se dirige vers les accents perçus comme étrangers, une glottophobie dirigée contre les personnes racisées.
Il y a une expérience un peu ancienne du début des années 1990 qui montrait combien l'imaginaire influe sur la compréhension d'un accent. Alors, l'expérience était assez simple. C'était aux États-Unis, on s'est écouté une même bande audio à deux classes d'étudiants, deux amphithéâtres, avec une diapositive. Dans un cas, c'était quelqu'un de racisé, dans le cas non, qui parlait. À la fin, on posait des questions. Ah, est-ce que vous avez perçu un accent ? Les étudiants qui avaient vu une photo, ben oui, ont perçu un accent. Alors c'était le même audio, on perçu un accent. Et autre question, est-ce que vous avez eu des problèmes de compréhension? Ah oui, quand on voit la photo de quelqu'un de racisé, on a des problèmes de compréhension, de nouveau, sur une base complètement imaginaire, puisque c'était le même audio.
Pour approfondir la question, j'ai contacté la journaliste Émilie Leistari, qui a travaillé sur la glottophobie. Pour elle, il y a d'abord une question de forme dans cette discrimination des accents perçus comme étrangers, mais pas que.
On va les considérer comme incorrects. On va vouloir reprendre la personne qui parle avec un accent venu d'ailleurs, comme on pourrait l'entendre parfois. On va considérer donc que la phrase, elle n'est pas tout à fait conforme à la norme, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, d'une norme linguistique. Mais surtout, au-delà d'une forme disqualifiée, je crois que ce qui se passe aussi souvent, c'est qu'on va discréditer le fond de la pensée d'une personne qui va parler avec un accent. On va considérer qu'elle n'est pas forcément, qu'elle n'est pas en train de porter un propos tout à fait sérieux, tout à fait intelligible, qu'on va peut-être même la considérer comme un peu moins futée que quelqu'un qui s'exprimerait dans un français dit parfait. On va considérer les propos comme potentiellement inférieurs.
Les accents perçus comme étrangers, ils brillent surtout et bien par leur absence dans les médias. Que ce soit à la radio, à la télévision, combien de journalistes entendez-vous parler avec un accent perçu comme étranger ? À moins de regarder La Première, la chaîne des Outre-mer, ou d'écouter RFI et encore, on se demande où sont tous ces journalistes qui pourtant existent. Est-ce qu'on leur refuse frontalement des postes ou est-ce que ça se joue avant, à l'école ? Philippe Boula de Mareuil.
C'est des témoignages d'élèves journalistes, ceux qui me le disent, que leurs enseignants leur disent si tu veux faire carrière à la télévision, il faut gommer ton accent, sinon ça va te cantonner à des rôles particuliers, notamment, je ne sais pas, le commentaire sportif par exemple, pour l'accent régional.
Vous auriez une idée de pourquoi est-ce qu'il y a cette uniformisation de la voix dans les médias audiovisuels?
Alors pourquoi? Oui, c'est aisément compréhensible, c'est-à-dire que, ça ne va pas être ma position évidemment, mais un patron de presse qui cherche une audience maximale va rechercher une prononciation plutôt passe-partout, qui parle au grand nombre, qui ne serait pas immédiatement localisée à une région particulière. Et ça, de nouveau, qu'on le veuille ou non, c'est plutôt cet accent neutre qui est porté par la bourgeoisie parisienne.
Ce genre d'expérience, c'est arrivé au journaliste Fabrice Huimeau. Aujourd'hui, il est chef du service Actu chez Le Média. Il est d'origine camerounaise et diplômé de l'ESJ Lille. Et il se souvient d'une discussion avec une collègue à qui il a fait part de ses envies de présentation en 2016-2017, alors qu'il travaillait pour une radio internationale.
La collègue m'a dit de but en blanc que la présentation était réservée de toutes les façons à des personnes qui n'ont pas un accent, enfin, des gens avec un accent standard, ou je crois qu'elle avait utilisé un terme comme ça. Et sur le coup, j'avais été un peu scotché par cette remarque que je n'ai pas forcément osé confronter cette remarque en particulier à la direction ou poser la question sur cette sélection par l'accent, par le biais de l'accent qui, évidemment, si elle était avérée, serait discriminatoire. Et ça m'a beaucoup choqué, j'avoue, à l'époque. D'autant plus que c'est un média qui travaillait avec beaucoup de personnes étrangères, avec des accents, avec des correspondants étrangers. Alors, la position de cette personne en tant que journaliste et en tant que journaliste expérimenté au sein du média, de ce média, qui a passé de nombreuses années là-bas, mais qui n'avait pas une position de dirigeant ou de dirigeante, ne donne pas l'ampleur d'un phénomène structurel. Maintenant, il s'avère que, effectivement, elle me l'a dit, et j'ai constaté que tous les présentateurs de cette antenne étaient des personnes qui n'avaient pas un accent particulier. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus un très grand consommateur de ce média, mais je constate, quand il m'arrive de le consulter, que les présentateurs, effectivement, sont. Enfin, il manque un peu de diversité au niveau de la présentation, mais la difficulté et la difficulté plus globalement avec une discrimination sur la façon de s'exprimer, il faut pouvoir prouver qu'il y a une discrimination, n'était pas si évident que ça. J'avais déjà confronté l'une des directrices de ce média face à des propos que j'avais reçu, que j'avais entendu de la part de mon directeur en école de journalisme, et qui me disait que ce média ne prenait pas d'étudiants étrangers avec des accents pour passer la bourse. Parce que chaque année, si vous voulez, il y a une bourse pour les écoles, pour les étudiants en école de journalisme qui leur permet d'avoir un CDD d'un an à la présentation. Et mon directeur d'école de journalisme avait clairement dit que c'était une bourse réservée aux gens qui pouvaient s'exprimer sans manifester le moindre accent. Et que c'est la raison pour laquelle lui choisissait en tant que directeur de cette école de n'envoyer que des Français sans accent, et qu'il évitait donc les étudiants étrangers qui venaient que ce soit d'Afrique ou même d'Asie ou même du Canada. Voilà. Donc j'avais confronté l'une des directrices ses propos qu'elle a totalement nié, qu'elle était très surprise. Du moins, elle paraissait surprise. Elle a totalement nié et ça m'a donné encore plus l'impression et même la confirmation que c'est vraiment le genre de discrimination très sourde face auquel on est un peu dépourvu. On peut très bien vous évincer ou vous écarter d'une position, d'une opportunité sans vous expliquer. Effectivement, c'est parce que vous ne parlez pas d'une certaine façon.
Et quand il était encore en école de journalisme, Fabrice Huimeau n'était pas le seul à faire face à ce qu'il appelle un plafond de verre en raison de l'accent.
J'avais des camarades qui avaient un accent beaucoup plus marqué, parce que mon accent, à moi, c'est plus dans l'intonation, c'est plus dans peut-être la sonorité, la mélodie, on va dire ça comme ça plutôt. Mais j'avais des camarades avec des accents plus marqués et qui aussi, je le voyais, étaient parfois écartés ou alors ne se sentaient pas compétents pour avoir droit à certaines opportunités en école de journalisme, donc, parce qu'ils considéraient que leur accent était rédhibitoire, alors que c'était des gens qui parlaient extrêmement bien français. Et ceux qui faisaient partie des étudiants, des groupes des étudiants étrangers qui étaient intégrés à l'école comme tout le monde, ne se mettaient pas en avant ou avaient tendance, même eux-mêmes, c'était aussi personnellement, et ce n'était en rien encouragé. Enfin, le fait de faire participer ces personnes à la rédaction, à des exercices en présentation, ce n'était pas encouragé ni par les enseignants, ni par la direction de l'école.
Pour moi, il y a quand même une question aussi de représentation, c'est-à-dire que moins on va entendre de diversité dans les voix des journalistes, moins ça va aussi peut-être encourager justement certaines personnes avec des accents à y aller parce qu'elles ne les entendent pas, et ça fait quand même une forme de cercle vicieux, quoi.
Exactement. On a beaucoup standardisé, entre guillemets, la façon de s'exprimer des journalistes. On ne va pas se mentir, un peu comme des perroquets. Avec une façon très, très déshumanisée presque de s'exprimer. Donc, le fait d'entendre autre chose, souvent quelque chose d'un peu plus chaleureux parfois, peut-être que je caricature aussi, mais ça dérange un peu tout ce monde-là qui aime bien le style télégraphique. Il y a encore un énorme chemin à parcourir et malheureusement, c'est l'un des défis du milieu journalistique aujourd'hui. Pour moi, le problème est un peu plus profond et structurel qu'il n'y paraît. Pour moi, la glottophobie, c'est un symptôme en fait, d'un milieu qui est très versé dans l'entre-soi, qui est très replié sur lui-même et qui, à la base, déjà n'accepte pas la différence. Et c'est surtout ça, sociologiquement. Le milieu journalistique a du mal avec ce qui ne lui ressemble pas. On part de trop loin. Bon, imaginez demain avoir différents accents. Il faudrait déjà que le sujet même de la diversité évolue et que ça évolue vraiment parce que je sais qu'il y a une petite part de diversité qui commence à peut-être montrer le bout de son nez, mais c'est souvent, malheureusement, j'ose dire, une caution pour se donner bonne conscience. Beaucoup de médias, on commencera à avancer dans ce combat en acceptant déjà de plus en plus de journalistes qui ne viennent pas de l'entre-soi parisien. Plus on aura un milieu qui sera ouvert autre chose qu'à lui-même, et plus je pense qu'on va avancer enfin, il y aura des avancées tout court, quoi.
Au-delà d'un défi pour le journalisme, c'est aussi un défi pour la société française, car l'accent ne fait pas partie des discriminations punies par la loi. Il y a bien eu un projet de loi voté par l'Assemblée nationale fin 2020, porté par le député Christophe Heuzé, pour promouvoir la France des accents, mais il n'a pas été confirmé à temps par le Sénat. Aujourd'hui, ça constitue plutôt une discrimination indirecte, selon la loi, un critère neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres.
C'était Oppression, le podcast de la section radio du QEJ consacré au racisme. Cet épisode a été imaginé et fabriqué par Marie Starecki en novembre 2024. Coordination Thomas Rozek et Céline Aslo, réalisation Jean-Christophe Galen. Tous les épisodes sont à retrouver sur le site du QEJ, QEJ.info.